Aline Perret, bonjour. Donc
bonjour.
Vous êtes à Waterloo, invité d'honneur de cette 7e édition du Festival du film historique. Alors, quand j'ai préparé cette rencontre, vous avez une vie tellement riche qu'on ne sait plus vraiment par quoi commencer. C'est incroyable. Allez, on va parler photo.
Oui.
Puisque finalement, il y a cette exposition ici aux écuries. Elle est ouverte jusqu'au 10 novembre. C'est gratuit, donc il ne faut pas oublier d'y aller. Et là, vous y exposez vos photos. Il faut dire que vous avez commencé à 23 ans avec Leica.
Oui.
Mais par contre, vous êtes une jeune exposante finalement.
Oui, parce que il ne me serait jamais venu à l'esprit de sortir mes classeurs où j'avais tous mes négatifs là, sans l'idée d'un ami qui m'a demandé, qui avait vu certains de mes tirages, parce que je faisais tout moi-même quand même. Pendant 18-20 ans à peu près, je faisais le laboratoire, donc je développais mes pellicules. Ce qui est très, pour qui a fait de l'argentique, c'est quand même extrêmement risqué de prendre sa petite cuve Patterson et d'enrouler la pellicule dans le noir total pour développer une pellicule qui risque d'être ratée complètement.
On connaît plus ça maintenant. Hein,
mais on connaît plus. Mais quand je parle de ça, j'ai souvent des yeux de personnes qui ont pratiqué comme ça le labo argentique et qui font « Ah, là, la cellule, la cuve Patterson, vous me rappelez des souvenirs ». Donc, je faisais ça par vraiment une passion tout à fait personnel. Jamais j'aurais montré ça à quiconque si un ami n'avait pas vu quelques-uns de mes tirages. Il m'avait dit, mais moi, j'aimerais organiser une exposition pour inaugurer un lieu dans mon village en Corrèze. Et puis voilà. Et puis, bon, mon éditeur a vu ces photos. Il m'a dit, mais moi, j'aimerais beaucoup consacrer un petit livre. Hein, voilà. Hein. Alors, je dis, oui, un petit livre, parce que je ne me prétends pas photographe, vraiment, je suis un véritable photographe amateur, puisque j'étais vraiment un amateur passionné. Voilà. Donc, j'ai fait ce livre qui s'appelle Les photos d'Annie. Et cette exposition, qui, à ma grande surprise et ma grande joie d'ailleurs, et émotion, s'est trouvée demandée de partout. Et parce que je crois qu'il y a quand même une grande tendresse des gens pour le noir et blanc, pour la pellicule, pour ce petit grain, voilà, qu'on peut retrouver parfois, qu'on peut refabriquer d'une manière un peu technique comme ça en numérique. On peut faire des fausses photos comme si c'était du noir et blanc avec un peu de grain comme ça, mais c'est pas pareil. Il n'y a pas cette profondeur, il n'y a pas.
Et puis il y a vos amis qu'on retrouve aussi sur la pellicule.
Alors voilà. Hein. Alors c'est vrai que j'ai fait à l'époque entre 75 et 90 à peu près, 95 j'ai fait ça. C'est vrai qu'à l'époque, pour les comédiens, mes amis comédiens, mais c'est pas ces photos-là que je montre. Il n'y avait pas de vidéo. Il n'y avait même pas, vous savez maintenant, les casting directors. Il n'y en avait pas. Les metteurs en scène rencontraient directement les acteurs sur des photos qu'on leur avait données. Donc, mes amis comédiens avaient vite découvert que, d'une, je ne faisais pas de trop mauvaises photos, et de deux, j'étais gratuite. Donc, j'ai fait quantité de books pour mes amis, et je leur faisais des tirages, évidemment, gratuits, comme ça, 15, des photos souriantes, des photos plus mystérieuses, des photos dramatiques. Vous voyez, il fallait montrer les différentes facettes qu'on pouvait avoir, comme ça, d'un visage. Mais ce n'est pas ces photos-là que j'expose, parce que celle-là, d'ailleurs, j'en ai beaucoup jeté, parce que ça ne servait à rien de garder des photos comme ça, que j'avais fait pour rendre service aux comédiens.
Vous ne regrettez pas un petit peu ?
Non, parce que ça, ce n'est pas les photos que j'aime. Les portraits-là que j'expose, c'est des portraits que j'appelle les portraits intérieurs. C'est-à-dire, justement, c'était des photos d'amis comédiens qui n'étaient pas en représentation, voilà, qui étaient dans un moment d'abandon, dans une condition comme ça un peu...
Et Klaus Kinski.
Un peu spécial. Klaus Kinski, je ne mets pas sa photo.
Ah.
Non, je n'expose pas sa photo. Et il n'est pas dans le livre à la demande de sa fille. Voilà.
Alors, votre papa, Lucien Legras, ben vous avez quand même fait sa présentation aussi dans un livre, Photographe inconnu.
Voilà, c'est pour ça. Et voilà, j'ai arrêté de faire des photos noir et blanc quand j'ai découvert les photos de mon père.
Oh.
Oui. C'est un petit l'avarie de mon technique, de mon agrandisseur, qui m'a poussé à découvrir les photos de mon père. D'ailleurs, dans ce livre, Les photos d'Annie, j'ai un chapitre que j'ai intitulé Du possible pouvoir des esprits sur un objet. Parce que mon agrandisseur, qui fonctionnait parfaitement bien jusque-là, s'est mis à perdre le point entre chaque tirage, les gens ne savent pas ça, mais on projette le négatif sur un papier blanc photographique, on imprime ce papier sur un certain nombre de secondes, et puis on le passe dans un révélateur, on le lave et un fixateur. Voilà, c'était ça le processus pour obtenir une photo. Et je parlais de mes amis comédiens, je faisais souvent 15 tirages de la même photo, dans le même format, dont il n'y avait aucune raison que je refasse le point. Mmh. Et il s'est mis à perdre le point entre, quasiment du jour au lendemain entre chaque photo. Donc cet appareil m'a énervé et je me suis dit, tiens, si j'achetais un grand agrandisseur, puisque j'aime tellement ça, peut-être un multiformat qui me permettrait enfin de développer les négatifs de mon père que j'ai jamais vu, les photos de mon père que j'ai jamais vu. Et voilà. Et j'ai tiré de sous mon lit les deux cartons qui contenaient les négatifs de mon père. J'ai découvert effectivement des visages, mon enfance. J'ai regardé les négatifs comme ça. Je n'ai bien sûr jamais acheté l'agrandisseur. Ah. Qui m'a juste fait... Voilà, c'est l'avarie technique, c'est pour ça que je dis, on ne sait jamais, les mystères, puisque les morts peuvent bouger des objets et faire des bruits, pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas dérégler un petit objectif ?
Le cirque, votre amour du cirque.
Oui, oui, oui.
Alors, votre maman était acrobate, et vous, haute voltige, c'est vrai, à Los Angeles, en 76,
oui, j'ai fait trois ou quatre, je ne sais plus, galas de l'Union, au trapèze.
Avec Perrin,
avec Francis, hein. Voilà, où on a fait des choses vraiment épouvantablement dangereuses, puisque à l'époque il n'y avait aucune sécurité. Voilà, il n'y avait aucune sécurité. Donc, avec Francis, on a fait des choses passablement dangereuses, et surtout à Los Angeles, où j'ai fait un numéro qui s'appelle En grand ballon, vous savez, où généralement on s'amuse à se jeter comme ça, à se rattraper par les pieds, par le trapèze. En bout de course, et j'étais à 15 mètres au-dessus des gens.
Wow.
Sans aucune sécurité. Quand je revois, c'était interdit peu de temps après d'ailleurs. Et quand je revois maintenant le film, puisque j'ai les films de ça, je me dis c'est quand même incroyable d'avoir fait ça. J'avais pas du tout envie de me tuer, hein, on travaillait très sérieusement, mais il y avait la beauté du geste, quoi, de faire ça pour un soir, de faire ça...
L'adrénaline
Oui, on travaillait 3 mois pour 2 mois, 3 mois. Ben alors, comme j'ai fait 3 numéros à suivre, je finissais quand même par être assez entraîné, quoi. Ouais. J'étais finalement vraiment trapéziste au bout d'un moment. Mais il y avait, oui, une adrénaline. Et, oui, c'est vrai qu'un goût quand même du risque de flirter comme ça.
Et le cirque, vous l'utilisez même dans vos expressions, trampoline grave.
Un trampoline. Un trampoline grave, oui, oui. Oui, c'est vrai que... Ça, c'est pas, je parlais de ça pour les familles formidables. Ah. Où effectivement... je parlais des anges tout à l'heure qui peuvent faire des avaries techniques, mais ils peuvent provoquer des rencontres aussi extraordinaires. C'est vrai que je l'ai beaucoup dit, mais à la fin de l'écriture du voile noir, donc sur... où j'ai écrit un livre sur l'impossibilité du deuil à partir des photos de mon père. Je souhaitais faire une comédie, vraiment. Ouais. Et mon agent m'a dit, écoute, c'est formidable, tu voulais un film, on t'en propose 3. C'était les 3 films de la première série des Familles Formidables. Ah, j'ai dit, c'est très bien ça. 3 films, oui, pas tant, c'est quand? Et elle me dit, ça commence tout de suite. Et j'ai dit, ah non, non, parce que je rends mon texte le 15. T'as de la chance, ça commence le 16. Et donc, j'ai rencontré Joël Santoni. On a découvert, au bout de quelques phrases, qu'on était orphelins tous les deux au même âge. Là, j'avoue que je me suis... Moi, qui ne suis pas croyante, mais qui crois au mystère, j'ai levé les yeux au ciel en me disant, trop bien organisé, là. Trop bien organisé.
Finalement, on croit qu'il n'y a qu'aux États-Unis qu'il y a des séries qui durent aussi longtemps, mais celle-là, quand même... C'est énorme.
26 ans. Ah. Mais c'est pas une série comme les autres. C'est
92. Hein.
C'est effectivement, c'est né d'une rencontre, c'est né d'amitié profonde, c'est né d'une complicité énorme, quoi. Entre Santoni, tous les acteurs, Bernard Lecoq, qui n'était pas orphelin, lui. Mais je me suis toujours demandé si la longévité de cette série ne tenait pas, peut-être quand même, au fait que les gens sentaient inconsciemment que ce n'était pas une série comme les autres. Mmh. Que peut-être pour au moins 2 des créateurs, moi et Santoni, il y avait, il y avait une véritable nécessité de se créer une famille tribale fantasmée comme on aurait aimé en avoir une et qui nous a pas été donnée à cause de la mort de nos parents et de pas mal de gens de la famille d'ailleurs par la même occasion. Et donc il y a eu quelque chose comme ça qui était très rare, quoi.
Parlant télé, en avril, vous étiez en Charente, Péril au château,
oui.
Claire de la Rochefoucauld, qui retournait dans le château de ses aïeux. Ça doit quand même faire un drôle d'effet,
ça. Formidable. C'était formidable. D'abord, c'est une femme éminemment sympathique et qui tournait pour la première fois dans le château de ses ancêtres, quand même. Avec les descendants, le dernier François de la Rochefoucauld qui est venu nous saluer, qui est venu nous voir... La gardienne de ce château qui est sa grand-tante. Enfin, c'était absolument formidable de tourner dans le décor de cette famille comme ça et de faire moi-même la duchesse de la Rochefoucauld. Voilà. Je ne sais pas si je m'appelais la Rochefoucauld dans le film. Non, on a quand même fait une fiction. Une fiction, mais dans un décor qui était celui de la metteur en scène. Donc c'était tout à fait formidable. J'aime beaucoup ce film. Enfin, je ne l'ai pas vu encore, moi. Vous allez avoir la primeur en Belgique, voilà.
Cinéma, quand même. Bon, Stavisky sera présenté.
Oui.
Si vous aviez à choisir parmi vos plus de 40 films, là, où iriez-vous dénicher le film qui vous tient particulièrement à cœur?
Oh, bah, c'est Un éléphant sans trompe, ouais. Évidemment, parce que c'est un petit classique.
76,
je crois
quand même.
Je crois que c'est un classique, oui. C'est un classique. Je me souviens encore, moi, je vous disais tout à l'heure, oui, cette scène de parking d'ailleurs qui a été inspirée par moi, c'est très curieux ça, c'est une histoire très curieuse, je suis quand même à l'origine, moi personnellement, d'un plan mythique du cinéma français.
Ouais, tout à fait.
Ouais. Parce que quelques années auparavant, j'avais tourné, et Yves Robert n'était pas metteur en scène, mais producteur, Les Malheurs d'Alfred, où on nageait beaucoup dans l'eau avec Pierre Richard, puisqu'on se noyait dans le canal Saint-Martin, on avait une scène dans l'eau, où on se battait dans l'eau, etc. Or, nous avons tourné ça chez Yves Robert, à la Guéville, où il y avait un bassin d'eau de source qui ressemblait absolument au canal Saint-Martin. Donc, on était dans de l'eau propre, avec des bords qui ressemblaient au canal Saint-Martin. Donc, on a tourné tranquillement chez Yves Robert, mais dans une eau à 12-13 degrés.
Comme
voilà. Donc, après, pour se réchauffer, on nous a donné des boissons alcoolisées diverses dans son salon. Et puis, ils ont mis de la musique. Et au bout d'un moment, n'arrivant pas à me réchauffer, j'ai craqué, j'ai dit, écoutez, mes petits-enfants, il n'y a qu'une chose qui va me réchauffer. Et je suis partie à danser avec les pieds par-dessus la tête autour de la pièce. Et tous les mecs sont restés comme ça. Et quand ils ont cherché, c'est Dabadi qui m'a raconté ça, quand ils ont cherché quelque chose que cette femme dans ce parking pourrait faire pour que Rochefort se sente comme s'il l'avait vu dans sa salle de bain, Yves Robert a dit, oh écoute, j'ai vu Annie faire un truc un jour, puisque c'est elle qui va jouer ça, on en est tous restés baba, on pourrait peut-être utiliser ça. Donc c'est très amusant, je suis très fière d'être finalement, un soir pour me réchauffer, d'être à l'origine de ce plan mythique.
Alors, quelques mots. Un de mes films que j'adore, Bobby Deerfield.
Ah oui.
Alors, bon, c'est un film hollywoodien qui se tourne en Europe, quoi, finalement.
Oui. Et avec un metteur en scène qui était d'un esprit très, très, très européen. Très européen. Et j'ai eu une véritable, profonde amitié avec Sidney Pollack. Je ne sais pas exactement pourquoi, d'ailleurs. Je ne parlais même pas anglais à l'époque. J'avais fait un an d'anglais à l'école. Donc, c'était « I am you are », point barre, quoi. Et je ne sais pas pourquoi cet homme m'a voulu pour ce rôle, absolument. À tel point qu'on m'a envoyé en Angleterre dans une famille d'acteurs pour apprendre l'anglais.
Voilà.
Donc, c'était... Et puis, nous avons eu vraiment une grande complicité. J'aimais beaucoup cet homme-là. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Et il disait notamment, je suis un réalisateur adulte, c'est-à-dire que je n'ai absolument pas besoin d'avoir de pouvoir. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir du pouvoir.
Le fait d'avoir été comédien aussi.
Il était comédien, il a été prof d'art dramatique, Donc, il a... D'ailleurs, j'ai parlé de ça à Joël Santoni et on a fait ça. Je lui ai dit, écoute, j'ai travaillé moi avec Sidney Pollack et on faisait une chose, c'est-à-dire qu'on n'allait pas se maquiller quand on arrivait sur le plateau, quand on avait une grande scène comme ça. Il y avait des scènes assez importantes. J'ai dit, on n'allait pas se maquiller, on allait répéter avec lui. Tiens, comment tu te sens bien? Bah tiens, je vais essayer de te le faire assis. Attends, attends, si je bougeais sur cette phrase-là. Et on répétait presque comme entre copains, comme on le faisait au conservatoire, pour se mettre en place une scène. Et quand on était contents les uns et les autres, ils disaient, bon, bah, alors vous allez vous maquiller et moi je vais faire du régler la lumière suivant ce qu'on a décidé. Donc c'était un moyen formidable. Les acteurs étaient tout à fait rassurés parce qu'on ne nous imposait pas des places, on les avait choisis avec le metteur en scène. Lui, il voyait très bien ce qu'il allait faire suivant ce qu'on avait répété. Et j'ai dit ça à Santoni, on a commencé à faire ça sur Les Familles Formidables. Il a dit, tiens, on va le faire. On répète d'abord, et quand on se sent bien, hop, après la technique intervient.
Alors, on va quand même parler écriture. Est-ce que c'est vraiment thérapeutique?
Thérapeutique, oui, ça l'a été. Disons, ça a été en ce sens où j'ai fait les pas grâce à ça. Ce qui est étrange, c'est que peut-être mon livre le plus personnel, le plus précieux dernièrement pour moi, c'est ce livre qui s'appelle Le rêve de ma mère, effectivement, où je réfléchissais sur un parcours d'artiste comme ça, comme c'est mon cas. Je disais, c'est vrai que souvent les artistes résilients, disons, quand sur un traumatisme d'enfance comme ça, on s'est sauvé par l'art, on a souvent des dons cousins. C'est-à-dire moi j'étais partie pour être peintre, j'étais aux Beaux-Arts. C'est la comédie qui l'a emporté, je crois avoir discerné pourquoi. Parce que on n'est pas seul. Je crois que c'est ça qui l'a emporté, c'est le fait d'avoir des rapports avec des partenaires. C'est ça qui m'a séduit avant tout. Mais je crois qu'au départ de tout, il y avait l'écriture, effectivement. Et dès l'âge de 13 ans, c'est vrai que quand j'ai retrouvé un journal intime de cette époque-là, où je prends une seule page, je parle de la mort de mes parents, une seule page dans trois grands carnets remplis de pensées diverses. Une seule page, je dis, un jour, il faudra que j'écrive mon livre. Donc j'ai été moi-même complètement estomaquée de me dire, c'est incroyable, dans l'inconscient, dans le disque dur, comme disent les jeunes, il était, j'avais déjà la conscience que si je parlais de Saint-Just, ça devrait être un livre. Or, j'avais quand même que 13 ans. Donc je crois que l'écriture était... Puis j'ai commencé un roman à 23 ans, un deuxième, qui m'a... Et puis Le Voile Noir, après... Je crois que l'écriture, Peut-être avant tout, je suis écrivain, je crois.
Annie Dupéret, un grand merci et bon séjour à Waterloo.